Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
Et bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous écoutez Sport Campus. On est en direct, comme tous les mercredis, on se retrouve avec la fine équipe pour parler sport, et cette fois-ci avec une thématique qui sort un peu de l'ordinaire, puisqu'on va aborder Octobre Rose et le sujet du cancer du sein, avec notamment l'association Arbitre contre le cancer. Mais tout d'abord, petit tour de table avec Alain pour commencer. Salut Alain.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui ?
Nickel.
Nickel, comme d'habitude. Et puis on a aussi Nicolas et Joris. Nickel, j'imagine.
Nickel, mais en fait plus nickel que Alain, parce que Alain, c'était un peu mal quand même.
J'ai une torticolis.
Donc c'est pas si nickel que ça.
J'ai tourné la tête un peu brutalement et voilà. Quoi.
Donc ce sera à nous de tourner la tête pour se faire signe. Et puis on accueille nos trois invités du jour, puisqu'il y a Nathalie Lucas, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et on accueille également Christophe Bréau.
Bonjour.
Et enfin Brice Colonnaz, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors on va en parler d'Octobre Rose et je te laisse tout de suite la parole Alain.
Oui, mais je vais d'abord présenter Brice Colonnaz qui est le président de l'association, c'est ça Brice ?
Tout à fait Alain, merci. Merci déjà de nous accueillir Alain.
Il n'y a pas de raison. Christophe, lui, qui est vice-président,
oui,
c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et Nathalie, qui ne fait pas tout à fait partie de l'association, mais qui va nous expliquer longuement un petit peu le parcours, puisqu'elle a été victime de cette maladie, malheureusement. Et nous expliquer un petit peu, parce qu'on parle beaucoup d'Octobre Rose, on en parle dans tous les médias, un peu partout, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est Octobre Rose ? Donc j'ai voulu, à travers ces trois personnes, et on avait Olivier Tual aussi, l'arbitre, qui devait venir, malheureusement, il a un petit empêchement, pour nous expliquer à travers le sport ce qu'on peut faire, comment on peut aider, comment on peut soutenir la maladie. Et vous savez tous que j'étais assez violemment touché, parce que j'ai perdu une nièce qui a créé l'association Miralus à Porte, à Pau. Association qui perdure toujours, mais qui n'est pas tout à fait comme dans ce que fait l'association des arbitres contre le cancer. Parce qu'en fait, Miralus aide les accompagnants, la famille. Eux, ils sont directement impliqués dans les gens qui sont atteints par la maladie. Donc, si tu veux bien nous présenter ton association, Brice.
Alors, en deux mots, nous, c'est pour changer le monde de l'arbitrage. Hein, puisque d'habitude, on est tous arbitres de football, enfin les trois quarts de l'association. Et on voulait changer un peu le monde de l'arbitrage, montrer que les arbitres ne sont pas là que pour mettre des cartons et repartir chez eux. Mais on est là aussi pour montrer un exemple et récolter des fonds pour les reverser à l'Institut Bergonié en priorité. Quoi.
Et ça fonctionne comment en fait ? D'abord, elle est partie de comment cette association ? C'est parti que...
Alors cette association, un jour j'ai arbitré un match de football où j'ai dû mettre deux cartons rouges parce qu'il y a deux personnes qui se sont battues sur le terrain. Et suite à ça, en discussion avec le président du club qui me dit « Monsieur l'arbitre, est-ce qu'on peut enlever le carton ?» Je dis « Non, déjà on ne peut pas enlever le carton, on a un règlement. Nous on est assermenté, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Des fois ça m'embête, mais quand il faut mettre le carton, il faut le mettre et puis il ne faut pas regretter. Mais c'est vrai que vous avez deux joueurs de moins. » Il m'a dit « Avec mes blessés, la semaine prochaine, je ne pourrai pas jouer. » Eh oui, mais ça c'est le problème des clubs. Et puis si on commence à ouvrir, nous les arbitres, une porte,
oui,
dérogation sociales, comme ça,
sociales, ouais.
C'est pas possible. Donc le soir, je suis rentré chez moi, puis je me suis dit « C'est vrai que il faudrait essayer de trouver quelque chose. » Et puis j'ai trouvé que nous, les arbitres, on a deux défraiements. On a un défraiement kilométrique. Et en plus, on a un défraiement qui est, suivant le match que tu arbitres, une indemnité kilométrique et une indemnité de match. Donc j'ai décidé de reverser mes indemnités de match. Tout d'abord, ça aurait dû partir à l'hôpital de Libourne. Donc j'ai contacté l'hôpital de Libourne qui ont refusé de reprendre l'argent parce qu'on n'était pas une association. Donc on s'est retourné et on m'a sollicité l'Institut Bergonié où je suis rentré en contact avec Gérald Carmonal qui est le directeur de la communication et puis qui me dit bien sûr on essaye de rentrer avec le monde du football qui est très fermé, on n'arrive pas à rentrer dedans. Donc j'ai dit on le fait. Et ensuite je me suis dit tout seul je vais pas faire grand chose donc j'ai appelé Christophe Bréau. Je lui ai dit Christophe faut que tu me donnes un coup de main. On reverse pendant un mois nos indemnités de match et puis est-ce que t'es partant ? Donc il m'a dit oui de suite. On a prévenu notre président de CDA, qui était Julien Grelot à l'époque. Et puis on était bien sûr favorisés par notre président d'avoir plus de désignations. On a arbitré, je crois, 3-4 matchs par semaine ce qui est pour qu'on puisse récolter un maximum. Et donc on a reversé 1000 euros à l'Institut Bergonié. Suite à ça, j'ai d'autres arbitres qui m'ont dit « Toi, tu fais ça, nous, on voudrait participer. » Donc j'ai inventé la journée du cancer. Donc tous les arbitres ont voulu donner, on a récupéré 2500 euros.
Sur vos défraiements.
Sur nos défraiements. Donc j'ai dit, c'est super. Maintenant, il faut que ça continue. Ben, le problème, comme tu sais bien, que quand quelque chose qui est rentable, et pour bien, il a fallu monter une association. Donc j'ai créé l'association qui s'appelait Arbitre contre le cancer.
C'est toi qui l'as créé ?
C'est moi qui l'ai créé. On a monté ça, j'ai monté un petit bureau, tout ça, et puis c'est parti comme ça. Alors, Octobre Rose, pour nous, on est à fond dedans. Donc il a fallu mes premières affiches. J'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Donc je suis allé à l'Institut Bergonié essayer de pleurer pour qu'on me fasse des affiches. On m'a dit, on va te les faire. Donc c'est eux qui m'ont fait le premier logo. Ensuite, j'ai acheté de ma propre poche une imprimante pour imprimer, pour plastifier. Une plastifieuse qui coûtait 130 euros, je suis sorti de ma poche. Et puis petit à petit comme ça, on l'a fait. Et jusqu'à arriver aujourd'hui où maintenant, on est un peu plus... on est mieux. On a vendu des cartes d'adhésion à 10 euros. Sur ça, j'ai fait faire des t-shirts payés par les sponsors. Et donc, j'ai vendu mes cartes d'adhésion à 10 euros avec un t-shirt offert. Et principalement, ils auraient pu aller à Intersport Libourne, chez mon ami Loïc, qui, eux, nous soutiennent à 100 000%. Et donc, je puisse acheter des t-shirts, faire quelque chose et les payer un peu plus tard, ce qui permet de faire tourner l'association. Sans ça, je ne pourrais pas.
Et on met l'accent sur Octobre Rose, mais le reste de l'année, alors vous faites quoi ?
Le reste de l'année, on fait des vide-greniers, on fait des marchés nocturnes, on fait des repas. Alors tout ça, bien sûr, quand je fais un repas, je sors 0 centime. Tu vas me dire pourquoi tu sors 0 centime. J'ai une très belle astuce, je travaille avec un traiteur, CB Traiteur. C'est mon ami Cédric Bidori qui est traiteur, qui a son compte avec sa charmante épouse Vanessa. Et donc on tenait un thème, mettons on fait une soirée paella, une chose comme ça. Et nous, on lance notre publicité. Et dès que les gens réservent, et après je dis à Cédric, on a tant de réservations, et lui il me dit, on fait tant de repas.
Mais qu'est-ce qui t'a motivé en fait ? Parce que bon, l'histoire des cartons rouges, ça n'a pas trop de rapport. C'est parce que tu as été touché, tu as eu quelqu'un de
ta
famille.
Mon père était touché. Et puis j'ai beaucoup de personnes, des copines aussi, qui ont les cancers du sein, comme mon amie Nathalie, Lucas, qui était marraine l'année dernière de l'association. Que je connais depuis très très longtemps, qui combat ça. Et je me suis dit, parce que nous, les arbitres, on ne peut pas faire quelque chose sur ça, parce qu'on est là que pour faire notre mission et sortir tout ça. Et donc, pourquoi pas ? Donc, j'ai mis 4 marraines l'année dernière qui ont été touchées de ça. Et ça nous motive de plus en plus, parce qu'on donne de l'argent à l'Institut Bergonié. Et cet argent, elle va à la recherche, elle va aider un peu partout. Et c'est très honneur que les arbitres puissent participer à ça. Quoi.
Tu distribues des cartons roses, quoi, maintenant ?
Alors, si on pouvait, on le mettrait. À la place du carton blanc pour éjecter une personne, deux minutes, on pourrait mettre carton rose. Peut-être qu'il faudrait penser ça, la question au président du district ou au président de la Ligue d'Aquitaine.
Il nous écoute.
Pour le président de la Ligue d'Aquitaine, peut-être. Mais bon, je pense que le district, je ne sais pas si c'est possible. On posera la question à Nathalie Lecaq, qui fait partie du comité directeur du district. Mais c'est une très bonne question et pourquoi pas.
Et pourquoi pas, oui, parce qu'avec toutes les rencontres sportives, notamment ce week-end, on l'évoquait tout à l'heure en off, il y a une grande rencontre de Coupe de France, le Stade Bordelais contre les Girondins. Quand vous voyez le prix des places, il faut savoir que c'est 20 euros. D'habitude, on paye 4-5 euros, je crois, pour entrer au Stade Bordelais. Ouais. C'est 20 euros. Pour moi, c'est un scandale, je le dis pur et net. S'il m'entend, le président doit le savoir. 50 centimes d'euros par place, ça les aurait pas écorchés, non ?
Eh oui. Mais ça, après, on rentre dans un autre monde politique et nous, notre association, j'interdis à tous les membres de l'association, notre association, de faire de la politique. Parce qu'on ne peut pas mélanger la politique et le sport et notre combat, nous. Et c'est vrai que je rencontre
des fois... C'est pas de la politique, là. Ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que, je m'excuse, je te coupe, mais bon, moi, j'ai vu passer des parutions où le Stade Bordelais faisait du tralala sur les photos et à droite et à gauche pour Octobre Rose. Ça doit venir naturellement, ça. Enfin, il me semble. Il me semble que ça va venir, ou faire un don de quelque chose, sans demander 50 centimes, enfin prendre 50 centimes, mais faire un don de quelque chose. J'ai rien vu passer, quoi. Donc, Monsieur Fournier, si vous m'entendez, ça serait bien de le faire, quoi.
Alors, nous, on est prêts. Nous, si on nous contacte, moi, je suis prêt à me déplacer. Et on déplace des montagnes, nous, maintenant. Avant, on allait dans les communes. C'est nous qu'on allait à l'avancée des maires, tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, on est très contents. C'est là que l'association a pris de l'ampleur. C'est les mairies qui viennent nous chercher. Si la mairie de Castillon-la-Bataille... qui est venu me chercher pour décorer la mairie. Donc on a loué une nacelle élévatrice, on a mis des rubans sur les poteaux. On a fait plein de choses avec la mairie, on travaille avec eux, les marches roses, on est là. Ils ont été sur les marchés, on a monté un stand à la mairie avec monsieur le maire Jacques Braillat pour vendre des t-shirts roses, vendre des rubans roses pour que les gens y prennent conscience et tout. Et vous voyez que la mairie est derrière et on est suivi à 100%. La mairie de Pujol aussi, je tiens à remercier Madame le maire aussi, parce que Pujol, c'était, on fait une grande partie, on fait beaucoup de vide-grenier, on fait des repas, on a fait un repas concert la semaine dernière.
Oui, à Pujol, c'est ça, non ?
À Pujol, voilà, dans le 33-350, où on a récolté plus de 6 000 euros, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, mais bon, c'est des choses qu'il faut dire. L'année dernière, Octobre Rose, on a versé de mémoire 2 500 euros, hein, une chose comme ça. Aujourd'hui, j'attends encore les bonnes retombées, mais je peux déjà dire qu'on va être à plus de 10 000 euros. Donc si on arrive, nous les arbitres, à faire ça, avec les moyens, mais bon, il faut être... tout le mois d'octobre, moi j'arbitre zéro match. J'en fais un, si, la semaine prochaine. Mais sinon, je fais zéro match pour être le vendredi, le samedi, le dimanche, sur le terrain, à la porte des stades qui nous accueillent. Les stades de l'FC Libourne, ils nous accueillent les bras ouverts. Les bras ouverts, d'ailleurs, j'ai un projet. C'est dommage que notre ami Olivier Tual n'est pas ici. Parce que j'aurais parlé avec Olivier. J'ai un grand projet, c'est de faire l'année prochaine le match contre le cancer, arbitré par Olivier Tual. Plus avec des arbitres de Ligue 1, Ligue 2, Bertrand Joanneau, qui a été parrain de l'association aussi, pourquoi pas, et puis faire l'entrée, qui reviendrait tout pour l'Institut Bergonnier. Ça va se faire, je sais qu'Olivier, je l'en parle, Olivier, je pense qu'il dira oui, il n'y a pas de souci. Il faut remettre en place ça, il faut montrer que nous, les arbitres, pour changer notre image, on le fait ça. Après, on ne peut pas faire avancer les politiques, on ne peut pas faire avancer les mairies, et puis nous, quand on va dans des clubs qui nous refusent la porte, j'essaye de discuter avec les présidents, puis quand c'est non, bon, après, on sait que... Ils n'aiment pas trop l'association ou ils auraient voulu peut-être autre chose sur l'association, je ne sais pas. Mais bon, on ne rentre pas dedans. Quoi.
Tu as dit pour changer l'image de l'arbitre. Alors, c'est quoi aujourd'hui encore l'image de l'arbitre ?
Alors aujourd'hui, un arbitre, il va sur le terrain. Déjà, bon, on est déjà mieux accueilli qu'avant. Ça, c'est clair, il faut être accordé. Puis on a évolué, on n'a plus des maillots noirs, on n'a plus les corbeaux noirs. On a du bleu, on a du jaune, du rouge, du vert. Voilà. Nous, on fait notre mission. Mais notre mission, on est toujours mal vu. Tu siffles une faute n'importe laquelle. Que ce soit le coach ou dans les tribunes, ça y est, on va huer. Oui, aujourd'hui, si on a des agressions, avec l'UNAF, on essaye de changer en disant « nous, on fait ça ». Mais pour dire « nous, les arbitres, on donne quelque chose pour le cancer à vous, les joueurs qui touchez de l'argent, vous donnez quelque chose ben, ?» Je vous pose la question. Nous, on donne. Vous donnez. Donc, avant de critiquer l'arbitre, il faut déjà voir ce qu'il fait l'arbitre. On a droit à l'erreur. On n'est pas en Ligue 1, on est en district, on est en Ligue d'Aquitaine, on n'a pas la VAR. On doit prendre quand une faute en des fractions de secondes. Ben on la prend la décision et on l'assume. Et on l'assume jusqu'au vestiaire. Quand vous voyez quelqu'un qui tape sur un arbitre, c'est pas normal. Pour un match de district ou de ligue, c'est honteux. Aujourd'hui, dont l'UNAF, dont je fais partie, l'UNAF Gironde, dont je suis au comité directeur, on se bat là-dessus. On a énormément d'agressions sur arbitre. Alors, l'arbitre, on change. Moi, je dirais, ceux qui tapent sur les arbitres, ben, prenez notre place sur le terrain, prenez le sifflet, allez-y.
Mais
et puis donnez aussi quelque
si
chose.
Si tu n'avais pas été arbitre, tu l'aurais fait ça ?
Oui, je l'aurais fait, mais peut-être pas en tant qu'arbitre. Peut-être pas en tant qu'arbitre, mais j'aurais trouvé une formule. Il faut s'investir dans le monde, il faut travailler, il faut s'investir. Si tu restes là sans rien faire, ça sert à rien, il faut toujours s'investir.
Et toi, Christophe, alors tu es arbitre aussi ?
Oui, exactement, je suis arbitre de district, donc j'évolue aussi.
On s'est jamais croisé, non ?
Non. Je fais aussi des touches en R3.
Tu t'en rappellerais, je pense.
Oui, et alors ?
Non, mais bon, je fais des doubles, triples, quadruples mes matchs en semaine. Ça m'arrive, je double samedi et dimanche.
Tu fais quoi ? Tu fais du district ou de l'entreprise ? Tu fais
de tout. Tout.
Un peu de tout.
Ligue, district.
Je coach l'FC Vénat, tu te rappelleras.
Ça, il en est
comment
fier,
on doit prendre ça ?
Comment on doit prendre ça ?
Ben, tu nous invites à arbitrer avec Brice, on viendra, un grand plaisir.
Non, mais l'image des arbitres, quand même, elle a quand même énormément évolué. Et encore là où maintenant, il y a une opération qui a été lancée pour valoriser les arbitres, dont déjà ce week-end, ça a commencé en Gironde. Où il y a tout un protocole qui a été mis en place, où les joueurs font des aides d'honneur pour accueillir les arbitres sur le terrain. Voilà, on est en train de faire pas mal d'actions pour que les arbitres, justement, prennent part entière dans le jeu, que les éducateurs comprennent que sans arbitre, il n'y a pas de match, etc. On fait beaucoup de rencontres avec les arbitres. Alors là, je prends ma casquette de vice-présidente de district, mais on fait beaucoup de rencontres avec les éducateurs. Par exemple, on l'a fait avec les éducateurs de la D1 Club VIP, où on a fait une rencontre entre les arbitres de D1 et les éducateurs. Voilà, de manière à ce qu'il y ait un échange qui se fasse, il y ait un dialogue qui s'instaure. Et voilà, enfin, bon, ça évolue, mais malgré tout, c'est encore, allez, je dirais entre guillemets, les pères fouettards, quoi. Hein, ils arrivent et puis voilà, c'est eux qui sont autoritaires sur le terrain, c'est eux qui doivent prendre les sanctions quand il y a sanctions à prendre. Donc c'est vrai que Bon, ben bah, voilà, il y a des jours, ça se passe très bien, d'autres moins.
Alors, j'écoutais une émission, pardon, Mélissa, tu voulais...
Non, vas-y.
J'écoutais une émission sur une radio concurrente ce matin. Je sais, c'est pas bien de ne pas écouter que Radio
Campus.
Mais
que fais-tu ?
Voilà. Et carton en fait, il y avait un reportage, carton rose, il y avait un reportage sur les arbitres, justement. Et mettre qu'on est arbitre sur un CV, il paraît que c'est très, très bien vu par les patrons qui adorent ça. Et en fait, c'est vraiment une valeur ajoutée de mettre qu'on est arbitre.
Tout à fait.
Parce que ça permet de recruter des gens qui sont stables, ça permet... de recruter dans les domaines, par exemple, des ressources humaines ou alors au niveau managérial aussi d'une entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ouais.
Est-ce que ça forme à
carrément
tout ça d'être arbitre ?
Ouais, l'arbitrage, c'est une très grande école de la vie. Parce que quand on est arbitre, il faut déjà... Alors surtout, je vais prendre les jeunes parce que c'est sur eux qu'il faut vraiment qu'on s'appuie. Alors les anciens, on en a besoin, il ne faut pas les oublier, mais les jeunes, c'est très important. Il faut apprendre à avoir un certain charisme, avoir une autorité naturelle, pas arriver en étant la personne où j'impose tout de suite mon autorité. Il faut savoir dialoguer avec des adultes. Ça apprend énormément de choses, ça fait grandir. Et effectivement, quand vous mettez ça sur un CV, ça a une importance parce que ça montre que dans votre développement, vous êtes capable de pouvoir parler à des gens, être capable de prendre du recul sur certaines situations.
Prendre une décision aussi.
Et savoir poser une décision et s'y tenir. Et ouais, donc c'est super important. C'est une très, très belle école de la vie. C'est pas facile. Parce que voilà, il y a beaucoup de contraintes, mais sinon, ouais, c'est vraiment super.
Moi, je peux en témoigner, parce que je suis papa d'un arbitre et qui était un chien fou, quoi. C'est moi qui l'ai mis dans l'arbitrage. Non, mais c'était plus qu'un chien
c'est
fou.
C'est pour ça que tu l'as mis dans l'arbitrage.
Ouais, ou... Tout à fait. Oui, mais faut savoir que mon fils, bon, je l'ai eu moi depuis, il a démarré avec moi en Benjamin. Pour être clair, il a jamais fini une saison avec moi, quoi. Je l'ai expulsé de tous les clubs parce qu'il était chien fou, quoi. Il faut dire les choses. C'est un très bon joueur, mais bon, il est dans la tête. Voilà. Et il avait 14 ans. J'étais coach à Saint-Bruno. J'ai dit maintenant, j'en ai marre, quoi. Ça peut plus durer, quoi. Donc c'est moi qui l'ai envoyé. D'ailleurs, il le dit un peu partout quand il est, puisqu'il fait de la radio, un petit peu tout. Il dit c'est mon père qui m'a envoyé. Et ça l'a drôlement canalisé. Ça lui a pris des valeurs. Ça lui a pris plein de choses. Et il voit les arbitres d'une autre manière. Après, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ce que disait Brice, là on va passer à... ça parle pas à l'Octobre Rose, mais au niveau de l'arbitrage en district et en ligue, je crois que vous subissez un petit peu ce qu'on voit à la télévision actuellement au niveau de la Ligue 1. Je vais prendre pour exemple un match qui s'est passé ce week-end que j'ai vu, qui s'appelle Nice-Nantes, et vous allez tous être d'accord avec moi, où je suis obligé de le dire, là l'arbitre il n'est pas mauvais, il est malhonnête, parce qu'à la mi-temps, quand il sort, il y a cette histoire de pénalty où on voit le gars, il a carrément le bras, comme s'il disait un flic aux enfants de passer à l'école, quoi. Il touche le ballon de la main, il rebondit sur l'autre main. Il ne peut pas y avoir plus pénalty que ça, c'est impossible. Et à la mi-temps, il va dire au coach adverse, Antoine Camboiré, qui lui demande, il lui dit « Ah ben non, moi j'ai vu le ballon qui a tapé d'abord la hanche et après la main. » Si ça, c'est malhonnête. Et en fin de match, il va siffler un autre pénalty, justement contre Nantes, où il n'y a jamais pénalty de la vie. Donc, le jeune qui a 10, 12, 14, 15 ans, qui voit ça à la télévision, ben, je prends les Nantais, les jeunes Nantais, puisqu'ils ont été, faut dire, ils ont été volés, il n'y a pas de chose. Mais il va se dire, c'est quoi les arbitres ? Voilà. Et il va se braquer contre vous. Et je crois que cette image qu'on a du sport de haut niveau avec cette VAR, parce que la VAR, ça aide en haut, mais ça vous détruit à vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes des humains, sur un pré, vous êtes tout seul. À la limite, vous êtes trois. Mais vous avez aucun moyen technique, vous n'avez rien pour vous aider. Et on vous compare. Parce que Brice Colonnas, quand il va arbitrer, pour moi, c'est le même arbitre qu'un arbitre de Ligue 1. Il a un arbitre, t'as pris les mêmes règles qu'un arbitre de Ligue 1. Donc, tu dois être capable d'assumer pareil. Mais si tu n'as pas l'aide qu'ils ont, eux. Donc, le gars, le simple petit joueur de football qui est un petit peu tendu, mais vous prenez pour les autres. Et je crois que c'est un tel là qui va. J'en ai un petit peu parlé avec Olivier. C'est peut-être là aussi qu'il faudrait travailler, avoir à essayer de faire une différence, à expliquer aux jeunes. C'est le rôle des éducateurs, ça. C'est pas votre rôle à vous. Mais l'éducateur, quand il est en cours, quand il fait ses entraînements, de prendre 5 minutes par cours, c'est pas beaucoup. Et de leur dire attention, ce que vous avez vu à Nantes, là, c'est ne mélangez pas ça avec Brice ou avec Christophe ou avec un autre. Mais nous, je suis plus éducateur, mais je m'occupe c'est plus du tout. D'abord, on n'avait pas le temps. On n'était pas formés pour ça parce qu'il y a des formations d'éducateurs, exact, je l'ai passé. Mais on ne m'a jamais appris à prendre mes joueurs 5 minutes et de leur dire attention, ça vient que de nous. Ça peut venir que de nous. Donc, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire ?
Alors, tu as quand même de plus en plus de choses qui se mettent en place. Tu as maintenant des chargés de mission au niveau de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine qui sont des arbitres en activité qui vont faire des interventions dans les clubs auprès des jeunes, justement, pour parler d'arbitrage, leur expliquer les lois du jeu, etc. Donc, il y a vraiment un travail qui est en train de se faire. Mais tu as raison, on paye l'image de l'arbitre de Ligue 1, mais on a aussi les retombées des joueurs de Ligue 1 sur nos gamins. Quand on a des gamins qui nous font des roulades à la Neymar ou des... Enfin, bon, j'ai rien contre Neymar, mais voilà, enfin, toute l'image que donne le foot en Ligue 1, forcément, ça a un impact sur nous, que ce soit sur l'arbitrage ou sur le reste, d'ailleurs.
Mais tout à l'heure, tu as parlé d'une action, là, où c'était beau ce qui s'est passé ce week-end, les donneurs et tout ça. Mais sur combien de matchs ça s'est terminé par les doigts d'honneur?
Ah, ça, malheureusement. Voilà, c'est...
Donc, voilà, il y a de l'honneur quand même.
Oui, c'est...
mais... Il y a toujours le mot honneur dedans, mais c'est pas le même.
Tu sais, Nico, je vais te dire, moi, ça fait maintenant, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le foot. J'ai mal à mon foot, sincèrement, parce que je suis en entreprise. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une rencontre que j'ai eue avec un club, là, je ne vais pas citer le nom. Football entreprise, en fait, ce sont des gens qui bossent. À l'époque, le foot entreprise a été créé, ça se jouait le samedi après-midi parce qu'on faisait 8-10 heures par jour et puis on se retrouvait tous ensemble le samedi après-midi pour jouer. Il y avait des clubs comme les Dockers, contre, il y avait tout ça, le Port Autonome, l'EISA. Et bah, après, ça a été un petit peu, ça a changé un petit peu de ligne de conduite puisque maintenant, ça se joue en semaine, le soir, ce sont souvent des gens qui. Mais à la maison, ça ne va pas trop bien parce qu'ils jouent le week-end, donc ils viennent jouer la semaine. Et voilà. C'est... Le foot entreprise est en train de perdre. Pour moi, j'en ai parlé en réunion au district. Pour moi, ce n'est plus du foot entreprise. Mais j'ai disputé un match qui devait se passer très bien. Quoi. Et là, ben, je n'ai jamais vu ça. En 30 ans, je n'ai jamais vu ça. On a laissé filer le match. On a préféré le perdre plutôt que de se faire défoncer. Il faut dire les choses. Hein. Où j'ai vu des gens arriver avec des calumets de la paix de 25 cm de long, avec des bouteilles de rhum et de vodka, pousser des cris de guerre. Des cris de singe, ça a été à chaque occasion, à chaque, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un sombrero ou un petit pont, enfin un geste technique au football d'un de leurs joueurs, c'était des cris de singe, c'était à la fin, nous on a l'habitude, on a un club entreprise, on s'amène à manger, on mange entre nous et tout, et bien ils sont restés là à nos pieds en train de continuer à chanter, enfin, ça a été déplorable, et comment vous dire, donc il y avait des gosses, il y avait des enfants de parents qui jouaient, qui ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gosses-là? Moi, j'ai vu un arbitre, je vous garantis, hein, on est obligé de l'amener dehors, il s'est liquéfié. Il s'est liquéfié. Je ne peux même pas vous dire ce qu'il a fait, j'en ai parlé en off avec Alexandre Gougnard, pour pouvoir s'échapper. Mais nous, on a accepté parce qu'il allait se faire. Voilà. Et alors qu'ils avaient gagné en plus. Hein. Mais il s'est liquéfié. Un jeune arbitre, je ne sais pas, il avait quoi? Il avait 25 ans. J'ai eu pitié pour lui. J'ai eu pitié pour lui.
Non?
Ah, je croyais que...
Non. Donc pour en finir sur ça, si tu veux, Brice, ce qui se passe, c'est que quand tu vois ça à ce niveau-là en foot entreprise, j'ai arbitré le dimanche matin le challenge celtique. Le challenge celtique, c'est le challenge des vieux, quoi, faut dire les choses. J'ai eu plus de mal que d'arbitrer un match de jeunes. J'ai eu plus de mal parce que c'était les insultes, c'était... Il y avait, je me rappelle à l'époque, maintenant je peux en parler parce qu'il y a prescription, il y avait deux jumeaux qui jouaient tu les as connus, Christophe, je ne sais plus comment ils s'appelaient là. Mais nous, les arbitres, on venait le dimanche matin, mais bénévolement, mais on n'est même pas de frais kilométriques, on n'a rien, Celtic. On vient parce qu'on aime ça. Hein. Mais on savait que déjà, on se faisait traiter le tout, on était mort. Quoi. Mais le dimanche matin, qui c'est qui va venir voir les anciens? Ben, c'est les petits-enfants, c'est les enfants. Et ils voient quoi? Ils voient quoi? Donc l'éducateur qui passe derrière, qui va tenir son speech pendant 5-10 minutes, s'il le fait, ben, le dimanche après, c'est parti à la poubelle. Quoi.
C'est pour ça qu'il faut travailler de plus en plus tôt avec nos jeunes joueurs. Pour leur donner une image positive de l'arbitrage. Et c'est par eux que ça passera, parce que bah, les anciens, ils ont encore les joueurs qui ont déjà d'expérience, etc. Ils ont leur ressenti, mais c'est chez les jeunes qu'il faut qu'on travaille et c'est par eux qu'il faut qu'on développe cette concordance et ce lien qui doit se créer entre les joueurs et les arbitres.
Après, est-ce que les arbitres aussi, il n'y a peut-être pas un petit peu de souplesse? Encore un petit exemple, un joueur qui a une boucle d'oreille, c'est interdit.
Ah donc, oui, mais ça,
quand
c'est
il
ne
peut
un
pas
règlement...
l'enlever, il met un sparadrap.
C'est un règlement fédéral, on ne peut pas, pas y déroger.
Oui, mais bon, tu arrives à la 85e minute du match et le sparadrap est tombé et l'arbitre, il me met le mec dehors.
Eh ouais, mais c'est obligatoire.
Et tu es en train de perdre le 3-0.
C'est dangereux.
Il suffit qu'à la minute d'après, il se passe une action et il se fasse accrocher l'oreille et que l'oreille est arrachée.
Ouais.
Voilà, ben bah oui, je comprends, mais
on
est obligé.
Ce que ça a fait, ça a créé une tension qu'il n'y avait pas eu pendant 80 minutes, voilà, tout simplement.
Je veux bien l'entendre, mais.
T'as un règlement. Combien de joueurs qu'on contrôle qui jouent sans alliance, ils mettent du strap, il y en a qui le mettent dans la poche et pendant le match, ils la remettent.
Tu t'es jamais fait arrêter par la police parce que t'avais dépassé le 3 km/h et t'as pas remonté, t'as dit allez-y.
Ouais, je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir. Si l'oreille, le lobe de l'oreille il sort en sang, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dire que c'est la faute de l'arbitre parce que t'aurais dû contrôler avant.
Oui, mais on va dire ça comme ça. Ouais. Mais... Bon, on va revenir à Octobre Rose.
Allez, revenons à Octobre Rose.
On va essayer. Oui, j'avais peut-être une question. Selon vous, ce mauvais accueil des arbitres sur le terrain, c'est lié à quoi ? Est-ce que c'est une défiance de l'autorité qui s'inscrit en général dans la société ? Est-ce qu'il y a un rejet ? Ou peut-être c'est parce que le foot, c'est quelque chose de très passionnel et les gens ont beaucoup... Enfin, il y a toujours cette envie que...
T'as un peu tout.
T'as les deux, oui.
T'as un peu tout, t'as la passion parce que ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont sur le terrain, mais les arbitres sont aussi des gens passionnés parce que sinon ils feraient pas ça non plus. T'as la défiance de l'autorité, oui, si on peut essayer de prendre le dessus sur l'arbitre ou à contrario se le mettre dans la poche pour qu'il soit plus de notre côté, etc. Voilà, il y a tout ça en fait, ça fait un tout, hein, c'est comme ça. Après, l'image de l'arbitre, c'est pas nouveau. Il faut travailler pour changer ça, mais voilà, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps.
Ouais, mais Nathalie, à l'époque, c'était au chiottes l'arbitre, quoi, depuis les tribunes, ça s'arrêtait à ça.
Ah oui, bah maintenant, voilà, les remarques ont évolué. Le vocabulaire est un peu plus cru.
Oui, mais il n'y avait pas des canettes de bière sur la tête ou carrément ils le branlaient
ouais,
à la sortie, quoi. Il n'y avait pas
c'est
ça, ça n'existait pas.
Mais c'est difficile à la fois pour les clubs d'arriver à contrôler leurs supporters, leurs visiteurs, etc. Ce n'est pas des gendarmes, les clubs. Donc, ils essayent tant bien que mal de faire respecter autour des mains courantes. Alors bon, l'arbitre, lui, il est garant de ce qui se passe sur le terrain. Les clubs essaient de faire de leur mieux parce que c'est pas toujours facile, hein, parce que quand vous êtes un dirigeant et que vous avez des gens qui débordent sur le bord du terrain et que vous allez les voir en leur disant écoutez, ça serait bien que vous arrêtiez un peu, que vous changiez de vocabulaire, les trois quarts du temps il va se faire renvoyer dans ses 22 mètres très rapidement et pas de façon très sympa non plus. Donc voilà, c'est compliqué, c'est hyper compliqué.
Oui, mais Nathalie, il y a un règlement qui dit, c'est encore une petite parenthèse, que c'est l'équipe qui reçoit qui doit assurer son service d'ordre.
Ouais.
On est bien d'accord. Donc maintenant, il y a une mode que j'espère que vous êtes mis au courant, qui fait que je reviens encore au club qui nous est arrivé. Il se déplace en nombre à l'extérieur. Un club du district, on n'a pas de service d'ordre. Il faut être honnête. On a une entreprise, mercredi soir ou un jeudi soir, vous n'avez pas de service d'ordre. Vous avez un délégué. Encore le délégué, il a encore le cassoulet sur l'estomac. Il s'en fout complètement. Bon, mais il faut dire les choses. Là, j'ai l'image, je le mets en image. Mais... Et donc, maintenant, il y a une nouvelle mode qui est sortie. Non, mais c'est vrai, ça se passe en Détroit Entreprises, dans le district de Bordeaux, où il y a deux, trois équipes qui se déplacent à 30 ou 40 ou 50. Des énergumènes, je ne peux pas les appeler autrement. Si ça se passe bien, ça va. Si ça se passe mal, eh bien, ils vont mettre le bazar, ils vont rentrer sur le terrain, ils vont insulter l'arbitre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Alors là, je te coupe de suite. L'arbitre officiel, je veux dire, s'il pénètre sur le terrain, c'est match arrêté de suite. Si l'arbitre, je suis d'accord avec toi, mais si l'arbitre sent qu'il y a agression, qu'il y a violence, et puis là, je vais te dire, il arrête de suite le match, quel que soit le score, et ça passe en commission de discipline.
Oui, mais...
On fait un rapport dessus. On ne s'embête pas. Et après, on va demander à chaque fois, ben, où le district, ils vont regarder, qu'ils mettront un officiel sur le match. Et puis voilà. Nous, on ne va pas au casse-tête. Du moment qu'il y a violence, on arrête le match, c'est terminé. Quoi. Attention, vous touchez un arbitre, ça, maintenant, on va au pénal. Ça peut aller loin. Alors, oui, si mais... c'est pas aller au pénal pour un match de foot entreprise... Bah, je pense que des intelligents, quand ils vont voir une fois
mais
ça...
Mais Brice, t'es à Tresse, il est 23h de soir, il fait nuit. T'as 25 ans, ils sont 50. Dis-moi si tu auras le courage d'arrêter le match.
Oui.
Ah oui.
Oui, oui, je l'arrête. On a encore retrouvé, il n'y a pas longtemps, où vous avez des arbitres qui sont obligés de s'enfermer dans les vestiaires en attendant la police. C'est pas normal. Oui, mais moi, je l'arrête. Maintenant, si le gars, il vient, il te tape, ça va lui coûter cher. C'est-à-dire que ça vaut le coup très très cher. Parce que là, on va au pénal. Si maintenant, ils vont comprendre qu'on va au pénal parce que tu touches un arbitre et tu vas au pénal, quand il prend les risques d'aller au pénal, ben.
Oui, mais enfin, s'il a 500 euros dommage intérêt et qu'il a plus le
droit. Non, mais on montrera plus que ça. Il va y avoir plus que ça. Parce que si le gars, il se met en arrêt de travail et puis qu'il finit, c'est très grave.
Tu sais, maintenant, il y a des sanctions qui vont jusqu'à la radiation.
Campus Bordeaux.
Ça crée toujours le débat hein, quand on parle d'arbitrage et notamment de foot avec Alain. On va peut-être se reconcentrer sur Octobre Rose juste après la petite pause musicale. Tout de suite, c'est As It Was de Harry Styles.
Say, when everything gets in the way, seems you can never.
13h35 et on est toujours en direct. Vous écoutez Sport Campus avec nos invités du jour. On va parler à présent d'Octobre Rose et notamment de l'association Arbitre contre le cancer. On a encore plein de questions à vous poser, n'est-ce pas Alain?
Oui, on m'a arrêté un petit peu mes anecdotes footballistiques et on va rentrer dans la vie du sujet. Donc on a invité Nathalie Lucas qui ne fait pas partie de l'association. Mais Nathalie, on peut le dire, tu as été touchée par la maladie.
Oui, à l'âge de 38 ans.
Tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours qui n'est pas facile.
Donc déjà, je voulais remercier Brice et son association puisque j'ai eu la chance d'avoir été sollicitée la saison dernière pour être marraine de l'association, enfin une des marraines de l'association. Moi, en tant que personne qui a donc été touchée par cette maladie, et malgré tout, quand tu as eu ce cancer du sein, tu vis avec et tu continues à vivre avec au fil des années puisque ça ne s'arrête vraiment jamais. Tu es toujours dans des contrôles permanents, etc. Ça réconforte, ça donne de la force de savoir qu'il y a des gens qui s'investissent pour travailler pour la recherche. Donc c'est quand même un cancer qui se soigne quand même de mieux en mieux. Il faut quand même être un petit peu optimiste et avoir un petit peu le sourire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Alors, de la chance dans mon malheur, on va dire, puisque on a découvert ce cancer totalement par hasard. Je suis allée chez le médecin pour toute autre chose et j'allais beaucoup chez le médecin, mais c'était pour mes enfants et pas pour moi. Et mon médecin que je connais déjà depuis longtemps me dit « Allez, on en profite tant que tu es là, on va faire un bilan complet, etc. » Et il me parle de mammographie. J'avais 38 ans, on n'était pas encore dans le cadre du dépistage. J'étais pas arrivée à l'âge de faire une mammographie. Il me dit « Allez, on la fait maintenant et puis c'est pas grave. » Et puis voilà, et en fait, j'ai fait la mammographie, 38 ans, et on m'a décelé une tumeur cancéreuse au sein. Donc bien sûr, j'ai eu une biopsie, etc. Vous êtes suspendu à l'attente du résultat, même si le radiologue qui vous fait la biopsie vous dit que par rapport à ce qu'il a vu à l'échographie, il y a quand même de fortes chances que ce soit ça pour commencer un peu à vous préparer, mais on s'y prépare jamais. Et le jour de l'annonce, là, c'est un peu votre monde qui s'écroule parce que ça vous touche vous, mais forcément, ça touche votre famille. Moi, j'avais des enfants qui étaient adolescents et qui, bien sûr, comprenaient très bien la chose pour le coup. Et donc, c'est très compliqué. Mon mari qui a vécu très mal cette annonce. Et là, vous vous dites finalement, alors tout le monde s'écroule un peu autour de vous parce que l'annonce est compliquée et vous, il faut que vous teniez le coup. Et il ne faut surtout pas montrer aux autres que vous êtes très touchés, en fait. Donc, je gardais un peu toutes mes émotions en moi et je craquais quand j'étais seule. Parce que je me disais, s'ils me voient dans cet état-là, comment ils vont pouvoir tenir? Ça ne va pas être possible. Donc, j'ai été opérée, j'ai eu une tumorectomie. Lors de la tumorectomie, en fait, ils ont vraiment fait un prélèvement énorme autour de la lésion cancéreuse. Et la chance que j'ai eue, c'est que sur l'analyse qui a suivi l'opération, toutes les zones qui étaient autour de la tumeur étaient des zones saines. Donc j'ai pu échapper à la chimiothérapie. Malgré ça, depuis, j'ai eu d'abord des contrôles tous les 6 mois et tous les ans, je suis suivie, mammographie, échographie, enfin, etc. Je passe par le parcours avec, je dirais, entre guillemets, une épée Damoclès qui reste au-dessus de votre tête, parce qu'on sait que le cancer du sein, c'est quelque chose qui peut revenir. Donc, vous avez toujours, quand vous approchez de la date fatidique, où vous devez aller repasser votre examen, le petit mois qui précède la date, quand vous avez posé le rendez-vous, ça cogite. Jusqu'à arriver là-bas, vous avez mal aux tripes en vous disant, bon, est-ce qu'ils vont retrouver quelque chose ou pas? C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans de ça, où quand j'ai fait ma mammographie, donc ils m'ont fait une vingaine de clichés, des grossissements, etc. Et où là, on vous dit, à l'échographie, bon, alors il y a quelque chose là, mais on ne sait pas trop, on ne voit pas bien, mais ça ne nous plaît pas trop. Et alors là, vous ressortez, vous dites, ça y est, c'est bon, je suis repartie. Non, bon, on refera un contrôle dans 6 mois. Ouais, mais là, 6 mois, c'est très, très long. Et puis, finalement, dans 6 mois, ça a grossi. Et puis, on s'aperçoit que c'est juste un kyste complètement bénin. Donc là, vous ressoufflez un peu. Et puis après, donc, vous avez vraiment ce contrôle qu'il faut faire. Et il faut vraiment se dire que ça peut arriver à tout le monde, à toutes les femmes. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Et si j'avais un seul message à leur faire passer, là, maintenant, c'est que... qu'elles aient n'importe quel âge, si elles voient un changement de leur poitrine, enfin surtout au niveau du mamelon, un écoulement, un changement de texture, un changement de couleur, ou qu'elles sentent une petite boule, qu'elles n'attendent pas. Surtout qu'elles aillent tout de suite consulter. Il vaut mieux aller passer une mammographie, même si c'est loin d'être agréable, plutôt que d'attendre et puis que ce soit trop tard et qu'on ne puisse pas trop le soigner, quoi.
Tu as une vie professionnelle, tu es aussi vice-présidente du district.
Alors, j'ai une vie professionnelle, je suis assistante maternelle. Je suis vice-présidente du district, oui, également. Mais tout ça, ça aide. Hein.
C'est ce que j'allais te
tout
demander.
Tout ça, ça aide parce que ça vous permet de penser un peu à penser aux autres, à penser à d'autres choses et à éviter justement d'être toujours centré sur cette maladie. Parce que, enfin, je ne vais pas vous mentir, tous les matins, dans ma salle de bain, je fais une palpation parce que, quelque part, ça reste. Hein, quelque part, vous voyez nu devant votre miroir et vous vous dites, bon, alors attends, là, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc qui est... Voilà, c'est quelque chose qu'on garde au quotidien.
Mais c'est frappant de voir que les personnes qui sont atteintes par la maladie, parce que, bon, je vais revenir, j'ai vécu, j'ai vu pas mal de gens qui avaient cette maladie, ils décuplent leur force pour aider les autres. Et est-ce que c'est une façon de, on va pas dire de vous guérir, mais de faire
une façon de se protéger, surtout. On se protège et en donnant aux autres, on a l'impression de, comment je pourrais vous dire ça, on a l'impression d'être utile et de se dire que finalement, si jamais on doit rechuter et que notre temps est compté entre guillemets, le temps qu'on aura été là, on aura apporté quelque chose aux autres. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de se dire qu'on laisse une trace, en fait.
Et toi, tu as fait le choix de le dire autour de toi que tu avais cette tumeur ou pas? Parce que souvent, on le garde pour nous. Enfin,
alors, je l'ai dit à ma famille, forcément ma famille proche, hein, mes parents, vraiment ma famille proche. Certains de mes amis les plus proches, j'en ai pas parlé tout de suite vraiment largement, quoi. Même quand Brice, l'année dernière, il y a certaines personnes au district qui étaient au courant, enfin Alexandre, entre parenthèses, puisque on se connaît déjà depuis un petit moment, mais peu savaient. Et c'est vrai que quand Brice m'a posé la question, j'ai d'abord eu un temps d'hésitation à me dire « Ouais, mais est-ce qu'il faut que tu t'exposes, entre guillemets, et est-ce que du coup, tout le monde va savoir que tu as eu un cancer ?» Et puis, ça dure 2 minutes et après, on se dit, après tout, il faut. Parce que peut-être que mon expérience peut servir à d'autres. Et donc, il faut en parler. C'est sûr qu'on reste quand même dans une bulle, hein, moi. Mais...
Est-ce que le regard des autres change?
Non, moi, je ne l'ai pas senti. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimio, de ne pas avoir de transformation physique. Je n'ai pas perdu mes cheveux, etc. Donc, je n'ai pas... vécu ce regard que les gens ont sur les femmes qui n'ont plus de cheveux, qui n'ont plus de sourcils, etc. Je pense que là, pour elles, pour ces femmes-là, ça doit être compliqué, le regard des autres. Parce que de toute façon, déjà, en règle générale dans la vie, hein, quand on est rond, quand on a ce regard des gens qui est toujours difficile à porter. Alors moi, j'ai eu cette chance-là, mais je pense que... Moi, je n'ai pas eu de différence de regard des gens. J'ai eu des interrogations, il y a des gens qui m'ont interrogée du fait d'avoir été marraine de l'association en me disant « Ah bon, t'as eu un cancer ?» etc., qui m'ont posé des questions. Mais moi, ça n'a pas modifié le regard. Mais je pense que oui, effectivement, si j'avais perdu mes cheveux, etc., forcément, ça aurait été différent.
Il n'y a peut-être pas que le regard, il y a aussi la compassion des gens. Moi, j'ai perdu maman d'un cancer généralisé. Elle me disait, texto, mais il me gonfle à toujours dire, oh la pauvre.
Et ouais, ça, c'est vrai. C'est sûr que c'est comme quand vous vous faites opérer ou quand vous êtes malade en règle générale et que les gens vous disent, ça va mieux. Ben non, je suis malade. Donc je suis malade, donc forcément
c'est la question
ça ne
va, qui tue,
ça
la
ne
question
va pas.
Qui tue, en plus.
Mais alors, en même temps, tu peux pas leur en vouloir à ces gens-là parce que ils le font eux d'une manière bienveillante. Nous, on le reçoit différemment parce qu'on est touché, on est malade, etc. Mais à la base, ça part de quelque chose de bienveillant, de gens qui veulent avoir prendre des nouvelles en fait. Donc c'est compliqué quand on est malade, mais ça fait partie du truc.
J'ai une question un peu technique, oui. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, peut-être qu'il nous faudra un médecin, mais c'est vrai qu'on entend souvent que le cancer, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Quand on a été touché par la maladie, est-ce qu'il y a un aspect pédagogique où on vous explique que peut-être que tel ou tel facteur favoriserait la maladie, peut-être qu'il faut avoir de meilleures habitudes de vie, ça se passe comment?
Alors,
juste on est passif, on
moi,
subit.
Moi, la seule chose qui a vraiment changé au niveau médical après mon cancer, c'est mon moyen de contraception. Où j'ai une gynécologue qui m'a dit, ma gynécologue m'a dit, même s'il n'y a aucune étude qui démontre que les hormones favorisent le développement du cancer du sein, on a quand même des doutes. Et donc, je suis passée sur une contraception sans hormones. Et ma fille aussi, du coup. Parce que, malgré tout, voilà, c'est ma descendance et elle a quand même la possibilité, elle, de contracter aussi, parce que c'est un peu génétique, hein, le cancer aussi. Donc, elle aussi est passée avec une contraception sans hormones. Elle a commencé à être suivie à l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans, elle a commencé à avoir ses premières mammographies. Et elle est régulièrement suivie aussi tous les 3-4 ans, parce qu'il ne faut pas non plus... On va pas l'obliger à faire... Mais voilà, elle a été suivie très tôt, en fait. Hein. Et voilà, même s'il n'y a vraiment rien qui dit, ma gynéco m'a dit on a quand même des doutes sur le fait que les hormones puissent favoriser le cancer. Après, c'est une histoire de structure aussi du sein. Moi, j'ai par exemple des micro-calcifications qui se font dans le sein droit, et c'est ces micro-calcifications qui s'amalgament et qui dégénèrent et qui se transforment en cancer. Et j'en ai pas du tout à gauche. Alors que voilà, c'est le même corps, donc il y a une histoire aussi de structure. Alors après, je pourrais pas plus vous en dire. Hein. Voilà, moi c'est vraiment ce qui me touche moi, mais bon, il y a quand même, faut quand même faire attention et puis il faut surtout pas hésiter à poser des questions.
Moi, je vais te prendre un témoin un petit peu, Mélissa, parce que t'es jeune et quand t'écoutes le témoignage de Nathalie, dans ta tête, ça te dit quoi en fait?
Alors moi ça me fait pas plus paniquer que ça parce que déjà on peut pas prévoir l'imprévu, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais c'est vrai que par rapport au cancer, là en l'occurrence on parle du cancer du sein, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cancers et je me pose plein de questions, notamment par rapport à l'environnement, à ce que je mange, à l'alimentation, aux pesticides, aux habitudes de vie, le fait qu'on est sédentaire. Donc c'est vrai que moi en tout cas j'essaye au quotidien en tout cas d'avoir un mode de vie qui fait que, où je pourrais pas me faire de reproches comme quoi si jamais un jour je tombe malade c'est ma faute en fait, peut-être que j'ai pas assez fait, peut-être que j'ai mangé trop de cochonneries ou que je faisais pas de sport ou des choses comme ça. Donc en tout cas moi c'est plus j'essaie d'avoir c'est un peu cliché de le dire, mais un esprit sain dans un corps sain pour pas m'inquiéter de me dire que mais peut-être que je me laisse un peu tomber et du coup je favorise le terrain à la maladie.
Si j'ai un petit jeu de mots, c'est dans un corps sain, c'est dans un corps sage que tu voulais dire, non?
Sage,
puisqu'on parle du cancer du sein, non?
Bien vu.
Bon. On va passer à autre chose. Non, mais
C'était la deuxième.
Celle-là, c'est un jeu de mots, quoi. C'est pas pareil que le cassoulet, quoi.
Ça te fait moins rire, pour le coup.
Si, elle est bien aussi.
Hein. Et la prévention, Mélissa, alors, t'en penses quoi, alors?
La prévention, c'est pour ça que je posais la question, justement. Je trouve ça un peu compliqué, parce que c'est vrai que, pour l'instant, j'ai l'impression que le corps médical ne sait pas trop pourquoi ça touche plus de personnes que d'autres. Donc c'est un peu à soi-même aussi de se prendre en main peut-être et d'aller faire ses propres recherches. Moi aussi, je me pose la question notamment sur la contraception. Moi aussi, je suis sous contraception. Des fois, je me dis, est-ce que c'est un peu risqué? Est-ce qu'il faudrait que ça évolue? Et c'est vrai qu'en fonction de qui on va voir, on n'a pas toujours les mêmes réponses. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. parce que j'ai l'impression que même les spécialistes, les discours changent d'étude en étude, de médecin en médecin. Donc je pense qu'il faut aussi faire confiance dans le processus, tomber sur quelqu'un en qui on a confiance et qui a même de renseigner. Je pense qu'il y a le feeling aussi qui joue aussi, de se sentir bien accompagné.
Mais c'est vrai que moi, je vois au niveau contraception, tu vois, par exemple, où je te disais que ma fille et moi-même, d'ailleurs, on n'avait plus d'hormones. Elle prend des oestrogènes naturels. Bah ouais, mais sauf que les pilules avec des oestrogènes naturels, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça vous coûte, ça vous coûte 50 euros pour 3 mois.
C'est encore un combat.
Mais bon,
ça.
Voilà, comme on ne sait pas, bah tant pis, on a pris le parti de le faire parce que ne sachant pas, ben bah, on le fait quand même, mais voilà, c'est vrai, je te rejoins, c'est pas clair. C'est pas clair et il faudrait que ça se clarifie parce que ça permettrait peut-être de d'éclaircir notre esprit parce qu'on se pose 50 questions et t'as raison, est-ce que ça peut être la nourriture, est-ce que ça peut être l'environnement, est-ce que ça peut être... Il y a tellement de facteurs qui changent, qui évoluent, on le voit hein, dans la météo, etc. On est au mois d'octobre, on se croirait au mois d'août, mais il y a tellement de choses qui évoluent, est-ce que tout ça, ça peut avoir un impact sur notre santé ? En fait, on ne sait pas. Mais bon, il faut, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être vigilant avec son corps et d'être vigilant au moindre signe de modification de son corps.
Parce que moi, je trouve ça très, très bien hein, qu'il y ait des associations comme la vôtre. Hein, c'est essentiel. Mais en fait, j'ai l'impression que, en fait, moi, ça me peine un peu qu'on en arrive au fait d'avoir plein d'associations pour lutter contre quelque chose sans aller à la racine de la racine pour savoir peut-être quelles sont les causes de tout ça et éviter, en fait, que les gens tombent malades. Mais c'est très compliqué comme sujet.
Je pense que la recherche fait tout le nécessaire pour aller justement essayer de comprendre le cancer depuis des années.
Ouais, ça a quand même bien évolué. Il y a quand même plus en plus aujourd'hui, de plus en plus de cancers. Au-delà du cancer du sein, je vais parler du cancer des hommes. Hein. C'est la prostate, on ne va pas se mentir. Vous, c'est le vôtre. On a chacun notre cancer. Bon, bah, les cancers de la prostate, c'est aussi quelque chose qui se soigne de mieux en mieux. Donc, malgré tout, la recherche avance. Mais c'est long.
Et je crois que les causes sont multiples. Et puis il y a le côté génétique dont tu parlais tout à l'heure aussi. On n'est pas égaux hein, face au cancer.
Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui a eu 2 cancers du sein avec 2 mastectomies totales. Hein, bon, elle a vécu jusqu'à 103 ans. Hein, donc, bon.
Mais voilà. C'est aussi rassurant de voir aussi que maintenant, ce n'est plus nécessairement une fatalité et qu'on peut vivre avec. Et reprendre sa vie, peut-être pas comme avant, mais en tout cas...
Tu la reprends jamais comme avant, parce que tu as toujours ça dans un petit coin de ta tête, hein, ça reste, mais...
On y pense tous les jours.
Ah bah oui, il y a toujours quelque chose qui te ramène à ça. Mais je pense que malgré tout, le fait que la recherche ait évolué et que ça s'arrange, et qu'on le soigne de mieux en mieux, ça te permet aussi un peu de relativiser, et de te dire, bon allez, enfin moi, pour mon cas... Hein, bon, bah, j'ai été opérée, je suis sur des zones saines, je n'aurai pas de chimio. Bon, ok, allez. Bon, maintenant, tu reprends le dessus et tu repars et tu te remets en marche.
Un bras de fer, en fait.
Oui, tout le temps. Mais c'est sûr que tu passes par des périodes de haut, de bas. Quand tu arrives... Puis si tu es un peu fatiguée, des fois, moi, je le vois quand je suis fatiguée, etc. De suite, j'ai une douleur qui arrive et c'est toujours dans le sein qui a été opéré. Et alors que j'ai rien, mais la moindre fatigue, la moindre contrariété, ça te joue toujours, enfin moi ça me joue toujours à l'endroit où j'ai été opérée. Ça, de suite, je ressens une douleur à cet endroit-là. C'est ton mental qui travaille comme ça.
La personne à qui on a coupé une jambe, il a l'impression qu'il a mal à la jambe.
Et oui, on dit que c'est le membre fantôme.
Christophe, on t'a pas beaucoup entendu quand t'entends Nathalie Ducat, ça te fait penser quoi ?
Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un cancer il y a 20 ans, cancer du testicule. Mais en fait, j'ai pris le ballon où il ne faut pas. Et mon médecin m'a dit, en fait, l'arbitrage t'a sauvé. De prendre le ballon dans les parties, ça t'a sauvé. Parce que, en fait, j'avais la testicule, qui est une testicule qui n'est pas grosse. Je l'avais limite comme une balle de tennis.
Et grâce à ça, ils l'ont découvert.
Voilà. Donc, en fait, elle a éclaté. Et le soir, bon, j'avais mal. Quand je l'ai pris comme tout joueur, t'as le cul par terre, comme on dit. Et puis, voilà. Sauf que le lendemain, éclaté, quoi. Donc, 1 an privé de sport, donc arbitrage, football, vélo, tout ce que j'aimais. Et là, c'est comme... moi, j'ai eu le coup près, quoi. Comment l'annoncer à sa famille, ses amis, sauf que j'ai tout gardé pour moi, quoi.
Et ça fait 20 ans maintenant, et au jour d'aujourd'hui, moralement, c'est guéri, c'est quoi ?
Moralement, mais j'ai toujours l'appréhension, quand mon médecin me dit, bon, ben, prise de sang générale, et on regarde tout. Et là, ben, on attend les résultats.
Et l'arbitrage, dans tout ça, ça t'aide ?
Ça m'a aidé, oui. Parce que j'ai mon club de l'époque qui a été là, qui a été présent. Bon, je ne l'aurais pas dit tout de suite parce que je ne voulais pas faire une polémique. Ils l'ont appris bizarrement. Ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, bon, il faut nous le dire, voilà. Mais le fait d'aller voir mes collègues arbitrer, ça me faisait plus mal que de moi arbitrer.
Donc tu arbitres maintenant là.
Je suis arbitre et arbitre, ouais. Bon, il y a certains, quand je vois le ballon arriver, c'est vrai que je me tourne. Il y a
une certaine appréhension.
Mais c'est donc, quelque part, c'est pas un médicament, mais pas loin, le fait d'arbitrer, non ?
Ben, moi, ça m'a remis, ça m'a fait déjà plaisir de revenir. De pouvoir revenir
c'est une
dans
psychothérapie
la...
voilà. Un petit peu, ça te permet d'oublier, voilà. Ça te permet de rester dans ton milieu que voilà. T'es le sport, parce c'est que ça, tu peux pas l'oublier. Et en sachant en plus que ça a peut-être sauvé la vie, quoi, en fait.
Ben, ce que m'a dit mon médecin, il me dit, ce jour-là, tu peux remercier le ballon, quoi.
Ou le gars qui a tiré.
Aussi.
Même si sur le moment, tu l'as pas remercié, quand même, je pense.
Non, pas sur le moment, non.
Il a mis le carton rouge.
Brice, donc on va arriver à la fin de l'émission. Je crois que Brice, il va nous faire assez rapidement un résumé donc, de l'assaut, puis nous annoncer le chèque que tu dois remettre à l'Institut Bergonié, je crois, incessamment sous peu.
Oui, alors, je te remercie encore. Je remercie toute la radio de nous avoir écoutés un peu, puis une parole pour les arbitres. Le chèque pour Bergonié, on ne peut pas donner de montant exact, parce que il faut attendre encore la moitié du mois de novembre pour que j'ai tout l'argent qui rentre. Mais on peut dire, je peux te dire qu'on va dépasser les... On va pas les dépasser, mais on va être sur les 10 000 euros.
C'est 10 000 euros. Mais que sur le mois d'octobre ou sur l'année ?
Non, que sur le mois d'octobre.
Que sur le mois d'octobre.
10 mois d'octobre. C'est un travail, et ces 10 000 euros, ils correspondent au repas qu'on a fait. Ils correspondent aussi à des brassards qu'on a inventés cette année. On a fait des brassards... on a eu des défauts, c'est moi, je prendrai la responsabilité à 100%. Les brassards sont un peu plus grands, donc on m'a dit les brassards sont un peu plus grands, qu'on voulait que les joueurs puissent jouer, puisqu'on a les autorisations de la Ligue d'Aquitaine, que je remercie, et du district de la Gironde, Alexandre Gougnard aussi, qui nous ont laissé les arbitres mettre. Et puis il y a des clubs qui ont acheté tous les brassards. Ils sont un peu grands, je reconnais, l'année prochaine, on fera mieux. À savoir que j'ai déjà 5 sponsors qui ont signé déjà avec moi, pour l'année prochaine, pour faire des brassards pour Octobre Rose 2023.
Moi, j'aimerais juste lancer un appel, c'est que ce week-end, il y a des grands matchs de Coupe de France, on le sait tous. Les clubs perçoivent une partie de la recette. 50 centimes d'euros par entrée, ça fait pas mal et ça ferait du bien à Bergonié. Voilà.
Est-ce que vous souhaitez adresser un dernier message, peut-être ?
Oui, peut-être que vous recherchez des bénévoles aussi pour
On recherche toute l'année. Ouais. Je voulais juste dire que samedi soir à Saint-Main-de-Castillon, vous aurez un concert des mauvaises graines qui va se faire et toute la recette ira bien sûr.
J'ai pas été invité moi. Mauvaises graines.
Tu veux faire de la musique maintenant ?
Oui, mais Isabelle, on va terminer là-dessus. Peut-être parler peut-être pour mercredi prochain.
Ouais, vas-y.
Parce que mercredi prochain, ça sera l'émission un petit peu spéciale parce que je suis parti à Poitiers faire une interview qui est quand même assez longue de Bayard Monchipour, qui est quand même 6 fois champion du monde, mais. Ça parle de boxe, et je ne sais pas si vous allez voir quand vous allez l'écouter. Il n'y a pas que la boxe, quoi. En fait, c'est un franco-iranien. Et quand il parle de son pays, quoi, il vous prend aux tripes et il faut l'écouter.
Campus Bordeaux.